Bruxelles, ma Belge, Delphine Frécinet.
Alors vous vous êtes sûrement posé la question en feuilletant et en achetant votre magazine Médor, le numéro 33 dans votre librairie préférée. Mais enfin, pourquoi il a un trou au milieu ce magazine ? Eh bien c'est pour illustrer le trou qui menace le budget, la survie de ce magazine pourtant essentiel. Le web étant sa toile, l'info papier se réduit à peau de chagrin. Une enquête d'ailleurs vous explique les tenants et les aboutissants. Puis en fait, tout est lié d'une certaine manière. Parce que si le public, le citoyen, le consommateur, c'est-à-dire nous tous, préférons lire les infos sur un ordi, une tablette, un GSM, eh bien à quoi ça va servir de l'imprimer sur du papier, d'éditer un journal, un magazine, d'en tirer plusieurs exemplaires pour essayer de les vendre dans les librairies presse. Alors personnellement, je vous dirais que le plaisir de toucher et tourner les pages d'un magazine, le confort visuel et intellectuel de lire un article sur du papier, c'est vraiment incomparable. Il n'empêche, en 10 ans, une librairie sur 4 a mis la clé sous la porte. Librairie presse, la grande disparition. C'est l'enquête signée Harold Noté et illustrée par Lucille Gauthier dans ce magazine. Et j'ai le plaisir de recevoir Harold aujourd'hui. Bonjour Harold.
Bonjour Delphine.
Alors on commence à parler tout de suite de la forme hein, avant d'aborder le fond, même si là aussi c'est lié parce qu'en fait finalement la présentation de cette enquête c'est une mise en abîme. Hein. Elle paraît dans Hole Magazine. Hole en anglais c'est le trou et on montre un magazine illustré, donc les illustrations signées Lucille Gauthier. Qui c'est qui a eu l'idée de cette présentation ?
C'est Médor.
Ouais.
C'est Médor. Ouais. Et l'idée, évidemment, c'était d'essayer de mettre à profit ce trou dans ce magazine. C'était l'occasion aussi de, pas de pousser un coup de gueule, mais d'établir un petit peu un manifeste. D'abord, par rapport aux problèmes financiers de Médor, qui cherche encore quelques abonnés pour arriver à un équilibre. Et puis aussi de s'interroger sur le format papier. Ce papier qui disparaît, qui nous glisse des mains. Et s'interroger un petit peu sur ce support qui disparaît peu à peu.
Mmh. Sur le support qui disparaît, sur peut-être aussi la valeur, la qualité de l'information qu'on attend, parce que là aussi, tout est lié.
Ben oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, et comme vous le disiez, le confort d'un magazine en format papier, c'est en tout cas quelque chose auquel beaucoup de monde tient, et qui disparaît peut-être un peu trop vite. Et de manière trop unilatérale.
Mmh. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être dans la façon de financer l'impression d'un magazine, d'un journal, qu'il va falloir chercher pour compenser, en fait, parce que ça a un coût. Mais en même temps, si on veut faire des choses qui ne coûtent rien, ben plus rien ne va rien coûter du tout. Même nos échanges, hein, finalement.
Ouais.
Et alors, le trou noir, finalement, qui absorbe la planète librairie presse, est-ce que c'est uniquement la gigantesque toile Internet ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ?
Ça dépend de pas mal de facteurs. Les librairies presse disparaissent pour toute une série de raisons. Parce que d'abord, les gens lisent moins, que le prix de la presse... notamment la presse quotidienne, flambe.
Ouais, avec les prix des matières premières, le papier notamment.
Avec notamment le prix du papier, je me demande dans quelle mesure les éditeurs ne gonflent pas un petit peu artificiellement
aussi
le prix pour pousser les gens à aller vers le digital.
Mm-hmm. Ça, ça aussi, ça sera peut-être l'occasion d'une autre enquête.
Ouais,
je vois. Effectivement. Mais alors, moi, je voudrais savoir finalement, Harold, quand on parle de librairie presse, donc concrètement, on parle de quoi ? Bon, vous l'entendez, je suis française, j'ai l'habitude effectivement des librairies et des tabacs-journaux presse où on achète la presse, les magazines, Médor, Courrier International, La Croix. Mais librairie presse, ici, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de boutiques qui portent le nom de librairie. Et la première chose que je vois, c'est les stocks de soda à l'entrée et de snacks. Alors,
Oui, alors la librairie, c'est un concept finalement assez belgo-belge. C'est cette petite boutique de quartier ou dans les centres-villes qui a toujours vendu de la presse, mais qui vendait aussi autre chose, qui vendait des bonbons. Moi, quand j'étais petit, j'allais à la librairie acheter des bonbons, qui vendait évidemment des cigarettes, mais qui vendait une offre qui avait un linéaire presse, une offre de journaux, de magazines, qui était très très développée. Il y a quelques années, il n'était pas rare de trouver dans une librairie presse une offre de 2 à 3 000 titres.
Ouais.
Aujourd'hui, on a plus ou moins une librairie sur 10 qui propose moins de 100 titres. Alors le secteur essaye de faire une sorte de rebranding. Donc ils ont maintenant lancé une marque qui s'appelle les librairies presse.
Mm-hmm.
Pas très original, mais qui pose un certain nombre de conditions, dont notamment la condition de proposer un minimum de 400 titres. C'est important parce que dans les supermarchés, on pourra en parler, parce que les supermarchés ont leur rôle aussi à jouer dans cette disparition. Dans les supermarchés, on va dire que dans les gros supermarchés, on trouve plus ou moins entre 100 et 200 titres. Alors ça peut paraître, pour les auditeurs, les auditrices, ça peut paraître encore assez conséquent comme offre. Il faut dire que 200 titres, ben finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est principalement les quotidiens, les grands hebdos, les hebdos télé, quelques hebdos culturels.
Et puis la presse spécialisée.
Quelques magazines féminins et puis quelques mensuels et puis c'est tout.
Ouais.
Et c'est
oui,
tout.
Donc finalement, ça ne fait pas grand-chose.
Non,
ça paraît beaucoup en nombre, mais quand on se penche sur la diversité des titres, on se dit « ouais, j'ai l'impression qu'avant, il y en avait vachement plus ».
Oui, et je me souviens d'une discussion avec un libraire qui me parlait par exemple des magazines photos. Et il me disait « voilà, ben, moi avant, j'avais 3 magazines photos
oui. ».
Et finalement, maintenant, je n'en propose plus qu'un. Alors, on pourrait se demander, ben voilà, 3 magazines photos, on n'en propose plus qu'un. Quelle est vraiment la conséquence de ça? Mais en fait, il y avait un magazine photo qui était un magazine plutôt dédié aux appareils photo.
Mm-hmm.
Un autre magazine qui était plutôt vraiment un magazine purement photographique, apprendre à avoir un bon angle, etc. Et calculer la luminosité, etc. Et puis, un magazine, par exemple, photo animalier.
Mm-hmm.
Et effectivement, n'avoir plus qu'un magazine qui propose simplement les derniers appareils, eh bien, ça fait quand même un petit trou dans cet accès à cette culture qui est parfois une petite culture,
oui.
Mais qui parfois, dans ces magazines spécialisés qu'on trouvait dans les librairies, qu'on trouve de moins en moins, eh bien, il y a des magazines sur l'histoire, il y a des magazines sur les sciences, il y a des magazines, toute une série de magazines culturels, des magazines sur les sports, évidemment. Tous ces magazines passent à la trappe.
Oui, donc finalement, c'est comme si on lissait un peu les choses et qu'on s'attendait à ce que tout le monde aille sur YouTube pour avoir sa petite niche qu'on trouvait avant dans les magazines. Je vois très bien les magazines photos dont vous parliez.
Ben oui, exactement. Je ne dis pas qu'il y avait pas, il y a peut-être une nécessité de faire un tri. C'est peut-être que d'avoir 25 magazines People qui vous donnent les mêmes infos qu'on peut trouver aujourd'hui sur le net.
Oui, et en même temps, la presse People, ça a toujours été celle qui a toujours le plus marché.
Ouais.
Hein, voilà. Quand on voit les chiffres, c'est bien un petit peu la règle, c'est-à-dire on dit ah ben personne ne lit Voici, mais tout le monde l'achète quoi. C'est un petit peu ça.
Ouais, c'est ça. Mais dans les magazines spécialisés dont je parlais sur les sciences, l'histoire
bien sûr.
Alors il y a aussi des magazines sur les maquettes, etc. Mais dans les magazines, par exemple sur l'histoire. Je discutais avec le patron de Tondeur Diffusion, qui est un éditeur spécialisé dans ces revues, vraiment spécialisé. Et il me disait que donc, lui il propose encore un catalogue de 1000 titres. Et dans la plupart des librairies dans lesquelles il se rend, ils ne prennent même plus un titre sur les 1000 qu'il propose. Donc c'est vraiment tout ce pan de culture qui disparaît.
Ouais. Et la culture, effectivement, qui prend d'autres formes, hein, c'est vrai, qui est de plus en plus digitale, mais on a l'impression que sur le net, il y a tout est accessible, tout est possible. Des fois, il suffit de taper un mot, moi, il y avait des trucs, je savais même pas que ça existait, donc voilà. Mais est-ce que finalement, le fait d'avoir autant d'offres sur le net veut dire qu'on a autant accès à la culture qu'on avait en allant avant dans ces librairies presse et en achetant ces magazines. Vous voyez, il y a un tel océan qu'on peut être un peu perdu.
Je ne pense pas parce que la visibilité de ces titres, quand on va dans une librairie, quand par exemple on demande à son libraire, on dit mais voilà, moi je vais acheter Le Vif, par exemple, parce qu'il y a un dossier sur la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, eh bien le libraire pouvait, parce que les libraires étaient, et il y en a encore, des grands spécialistes de ces titres, ils connaissent très très bien l'offre qu'ils proposent, ce libraire pouvait nous dire, eh bien voilà, justement, il y a le magazine, par exemple, Secret d'Histoire, qui propose justement un numéro spécial sur la collaboration. Est-ce que ça vous intéresse, etc. Je ne pense pas que quand on va sur le net, a priori, où il y a une offre encore beaucoup plus grande, je ne pense pas qu'on a la même visibilité et on n'a certainement pas les conseils.
Le même accompagnement.
Ouais, le même conseil.
Et alors justement, Harold, de noter pour cette enquête, hein, Librairie Presse, la grande disparition, j'imagine que vous en avez rencontré pas mal, des libraires, beaucoup ont accepté de témoigner ou est-ce que pour certains c'était douloureux ?
Non, c'était très douloureux. Je pense que... si je dois faire une petite catégorisation, je vais dire que j'ai rencontré deux types de libraires, alors vraiment pour schématiser, des libraires qui se réinventent, donc je parlais d'un effet un petit peu carrefour marketisation, parce que vraiment ce sont des libraires qui proposent aujourd'hui un petit peu de tout et de rien, hein. J'ai rencontré des libraires qui achètent même de l'or, des libraires qui font du pressing, des libraires qui vendent des écharpes, des lunettes de vue, enfin, évidemment des sandwichs, des sodas, etc.
En fait, c'est des libraires qui font supermarché.
Exactement. Ouais. Alors, certains s'en sortent encore assez bien, principalement avec des paris sportifs, hein, parce que ça rapporte encore pas mal.
C'est vrai.
Et puis, d'un autre côté, j'ai rencontré beaucoup de libraires qui sont plutôt, on va dire, les libraires d'une ancienne génération, qui, eux, sont encore rattachés à leur cœur de métier et qui disent « Mais bon, non, moi, je vends, oui, quelques loteries, quelques cigarettes, mais moi, je vends surtout de la presse. » Et ces libraires, ils ferment boutique les uns après les autres. Mmh. J'en ai rencontré qui ne se payaient plus de salaire depuis 6, 7, 8 mois et qui remettent leur commerce et qui n'arrivent même pas à le remettre. Quand j'ai un petit peu regardé combien ça valait un fonds de commerce d'une librairie aujourd'hui, eh ben aujourd'hui, on peut racheter une librairie de quartier pour moins de 20 000 euros.
Ah oui.
Donc ça ne vaut plus rien, ça n'intéresse
pas. Ça ne vaut plus rien, c'est comme une bouchée de pain. Et en plus, dans ce qui ne vaut pas grand-chose non plus, moi j'ai été vraiment sidérée, puisque vous le mettez, vous l'indiquez dans votre enquête, Harold, vous notez le salaire moyen d'un libraire. Hein. Dites-le, parce que j'arrive toujours pas à
l'entendre. C'est environ 1600 brut. 1600 euros brut par mois.
Mais c'est beaucoup moins que le SMIC, beaucoup moins que le salaire médian, enfin c'est beaucoup moins que beaucoup moins.
Ouais, c'est pas possible de vivre.
Ben non, et voilà, comment faire ? Donc on comprend effectivement qu'il y a une telle disparition en 10 ans. Moi je me demandais, dans ce domaine d'activité, est-ce qu'il y a une sorte de syndicats, de regroupements, de quelqu'un qui les représente au niveau politique, au niveau des institutions, parce que c'est un corps de métier quand même aussi.
Oui, alors au niveau francophone, il y a Prodipresse, c'est un petit peu la fédération des libraires, librairies presse indépendantes. Ils font pas mal de lobby au niveau politique pour essayer de faire bouger les choses, mais sans vraiment un grand résultat. Je pense que les politiques... on le voit aussi maintenant avec la concession à Bipos pour la distribution, la concession qui vient d'être un petit annulée, enfin le gouvernement un petit peu rétro-pédalé, ils ont jusque juillet, mais on voit que finalement, ça n'intéresse pas beaucoup les politiques. Je pense qu'ils se disent que finalement, Librairie Presse, c'était un petit peu comme les vidéoclubs. Ils ont disparu et puis finalement, plus personne ne s'en plaint aujourd'hui.
Oui, parce que de toute façon, parce qu'il y a autre chose le vidéoclub qui a encore des cassettes vidéo quand tout le monde regarde en streaming sur des plateformes.
Oui.
C'est un petit peu ça. Très bien. On va marquer une pause musicale, Harold Noté, et on se retrouve pour continuer donc à parler de votre enquête dans Médor, Librairie Presse, la grande disparition.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. En pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain, pourtant tout allait bien. Les tortures, les supplices, livres de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée, silencieuse.
J'aime lire hein, ce titre d'Albin de la Simone. Bah ouais, bah quand on aime lire, on peut un petit peu se désoler, s'inquiéter, oui, de la disparition de ces librairies presse qui disparaissent, et en tout cas, de manière générale, de la crise qui touche la presse et le format papier, parce qu'encore une fois, tout est lié. Vous avez, je le rappelle, donc dans ce numéro Médor, le numéro 33, vous ne pouvez pas le louper, ce magazine, il y a un trou au milieu. Et qui montre bien donc la difficulté donc pour un magazine comme Médor à boucler son budget et être en mode survie, et ça concerne beaucoup de titres de presse. Là spécialement avec Harold Noté qui signe Librairie Presse, la grande disparition, eh bien on s'intéresse donc à ces librairies presse, ces points donc de quartier qui étaient aussi un lieu de rencontre et qui disparaissent. Donc on rappelle, une librairie indépendante sur quatre a fermé en 10 ans. Parce que c'est vrai que Harold, quand on pense librairie presse, on peut se dire, oh, bah voilà, à Bruxelles, bah, s'il n'y en a pas une là dans le quartier à Scarbeck, je peux peut-être en trouver à Ixelles ou à Saint-Gilles, etc. Mais il n'y a pas que Bruxelles, Liège, Namur, Mons ou les grandes villes. Donc, en Belgique, il y a aussi des petits villages. Et ça, les librairies presse, c'était important. C'est important.
Mais oui, effectivement, elles ont un rôle social à jouer, un rôle social qui me paraît quand même assez important. C'est encore un endroit, moi je viens d'un petit village dans le Brabant wallon, c'est encore un des rares endroits où on rentre, on dit bonjour, on rencontre ses voisins, c'est l'occasion de sortir de sa voiture et de rencontrer ses voisins, même si c'est simplement pour leur dire comment vous allez, ça va, moi aussi ça va, au revoir, c'est important je pense.
Oui, bah oui, c'est un échange. Et d'ailleurs, puisqu'on dit bonjour, bah, il y a aussi un autre endroit qui est important aussi pour les librairies presse, hein, et où on dit peut-être de moins en moins bonjour avec la multiplication des caisses automatiques, hein, c'est la grande disparition, la grande distribution, les grands supermarchés. Et là, vous dites que y a un rôle à jouer dans cette disparition. Enfin, ils ont une part de responsabilité.
Oui, ils ont une part de responsabilité parce que c'était finalement c'était un point presse assez important, les grands supermarchés. Il y a de ça quelques années, il y avait parfois des rayons vraiment impressionnants de presse avec des centaines et des centaines de titres. Et aujourd'hui, ces linéaires presse, comme on les appelle dans le jargon, ils disparaissent, ils se réduisent comme peau de chagrin. La presse, c'est un produit qui, pardonnez-moi l'expression, emmerde la grande distribution. Mmh. Ce sont des produits qui, à part les quotidiens, qui n'ont pas une grosse capacité de rotation. Or, les supermarchés, ils aiment bien que les produits ils se vendent très rapidement et de les remplacer par d'autres produits. Et c'est compliqué à gérer. ce sont des produits sur lesquels ils font très très peu de marge, où ils doivent dédier un employé pour réassortir, avec des magazines hebdomadaires, mensuels, trimestriels, qui restent, qui prennent la poussière dans les rayons. Les supermarchés ont horreur de ça. Et pour avoir discuté avec quelques responsables de grands groupes de supermarchés, ils m'ont dit, mais par exemple dans les nouveaux Deleuze franchisés, hein, toute cette histoire qui a fait grand bruit, eh bien ces Deleuze franchisés, ils veulent plus de presse. Ils veulent plus de presse. Ça les ennuie et ils vont remplacer ça par des sodas et autres produits sur lesquels ils font beaucoup plus de marge.
Oui, voilà. Et après, il faudra trouver ailleurs un article qui dit l'importance, attention, la dangerosité du sucre voilà, dans les sodas qu'il y a. Mais alors justement, je me demandais, Harold, c'est vrai que donc on a bien compris, la grande distribution, les supermarchés, c'est pas trop leur truc. Donc la presse, les journaux, les magazines. Si on va de l'autre côté peut-être du spectre, hein, si on va plus dans la slow food, c'est-à-dire les établissements bio qui ont aussi d'autres valeurs, d'autres éthiques. Est-ce que eux, ces boutiques, ces magasins, ces supermarchés bio accueillent aussi la presse parce que ça fait partie peut-être aussi de leurs valeurs?
Non, je ne me suis pas vraiment penché sur ces magasins-là, mais pour en fréquenter de temps en temps, je ne vois pas de presse dans ces magasins-là. Je pense que la presse en grande surface, c'est quelque chose d'un petit peu historique. Il y avait de toute façon un rayon, souvent près des caisses, qui était dédié à ça. Je voulais citer un chiffre, c'est que avec cette diminution des linéaires presse dans les grandes surfaces, on me disait qu'il y avait des magazines plus spécialisés qui allaient perdre maintenant dans les deux prochaines années 25% de leur lectorat uniquement à cause de ce manque de présence dans les grandes surfaces.
Ouais. Et alors, où est-ce que ces magazines pourraient être présents en dehors des grandes surfaces? Mais il y aurait quoi comme espace?
C'est un petit peu ça la question, parce qu'on on pourrait se dire, ok, digitalisation. Tout le monde va consommer au digital et ceux qui sont ce qu'on appelle un petit peu les fracturés numériques, ceux qui sont soit réticents, trop âgés, on peut dire, eh bien, ils n'ont qu'à s'abonner. Ils vont recevoir leur journal, comme certains le font, comme de nombreux Belges le font, dans leur boîte aux lettres. C'est un peu un leurre parce que l'abonnement coûte très cher. Je pense qu'un abonnement au journal le soir, ça doit coûter plus ou moins 450 euros par an.
Oui, il faut pouvoir les sortir.
Hein. Il faut pouvoir les sortir. Et puis, beaucoup de gens, je l'ai constaté en faisant des reportages dans les librairies, beaucoup de gens achètent au numéro.
Ah oui, ils achètent selon le sujet, selon
exactement,
l'info.
Exactement. Oui. Donc, tout l'abonnement, ça les intéresse pas. Et s'ils doivent s'abonner à un magazine, ça veut dire qu'ils achèteront pas d'autres magazines. Ça veut dire que leur spectre, il va se réduire.
Oui, bah oui, bah c'est par exemple le journal L'Équipe, on va l'acheter quand on sait que Pelé est mort et qu'il y aura un super hommage dans le magazine L'Équipe. Pardon, là c'est le cœur qui parle aussi, mais voilà, enfin c'est effectivement ça, il y a tout ça qui se mord la queue, donc et surtout les gens qui lisent, hein, qui achètent ces magazines, de plus en plus, ils vont être un petit peu frustrés, laissés pour compte, donc ils vont se tourner vers quoi? Parce que c'est ça aussi la question.
Ils vont se tourner, je pense, sur des informations qui seront beaucoup moins personnalisées, qui seront moins fouillées, qui seront plus de l'information prête à consommer très rapidement, comme on en trouve beaucoup sur le net. On peut se poser aussi la question, je ne l'ai pas abordé évidemment, parce que ça sort un petit peu, mais on pourrait se poser la question de l'impact, par exemple, de la publicité. Ouais. Je pense que si tout le monde lit en ligne, la publicité en ligne, elle est beaucoup plus dynamique, voire parfois agressive.
C'est vrai.
On peut se poser la question de savoir est-ce que quand je lisais mon magazine, où il y avait forcément une grosse place, comme dans la plupart des magazines, à la publicité, je vais maintenant le consulter sur un écran. Est-ce que je vais pas être plus sujet à avoir cette agression, à être agressé par cette publicité, par tous ces pop-up, par des publicités qui vont évidemment utiliser toute une série d'algorithmes pour être encore plus pertinentes, plus agressives, etc.
Ouais.
On peut se dire que effectivement on peut consommer un média en ligne, mais est-ce que ça se fera vraiment dans l'intérêt du lecteur?
Oui, c'est ça, parce qu'en plus, il faut être super rapide pour fermer un pop-up. Hein. Moi, je ne sais pas vous, des fois, j'arrive tout de suite à fermer, alors qu'à la limite, une page de magazine, on repérait à peu près les pubs à tel article, hop, on passe, et voilà.
Oui, ça va changer le mode de consommation, c'est certain.
Oui. Mais comme finalement, les modes de consommation et le mode de lecture a aussi déjà changé, on voit aussi dans les générations qui arrivent lire, hein, c'est pas un truc qui passionne, quoi.
Non, et on voit qu'évidemment il y a une grosse dimension socio-économique dans les quartiers populaires à Bruxelles. On voit que les librairies presse, elles disparaissent encore bien plus vite parce que c'est un public qui est moins sujet à la lecture ou dans le cadre familial on n'a peut-être pas eu cette éducation et quand je disais que certains libraires ont beaucoup de mal à remettre leur commerce, que ces fonds de commerce sont vendus vraiment pour une bouchée de pain, il faut signaler aussi un autre risque, c'est que dans les grandes villes, pas dans les villages, mais dans les grandes villes, souvent, ces librairies presse sont rachetées par des enseignes de paris sportifs.
Oui.
Alors là, vraiment, je pense que là, on a tout perdu.
Nous, on a tout perdu. Ceux qui ont les sociétés de paris sportifs vont continuer effectivement à gagner. Je re-rappelle quand même, parce que pour la forme, moi j'aime bien, et c'est bien de le redire, hein, que dans cette enquête, Harold notait, donc je rappelle, les illustrations sont signées Lucille Gauthier, c'est important de la citer. Je trouve que c'est très bien, parce que vous montrez vraiment le cynisme, hein, avec concurrence à tous les rayons, tenter de sortir de la spirale infernale. Et là, vous prenez le jeu des petits chevaux. Moi, ça m'a fait penser au film avec Jane Fonda, qui était d'abord aussi un livre auparavant. C'était ses marathons de danse. On achève bien les chevaux. Ouais. Et vous aviez ça aussi peut-être un petit peu en tête.
Moi, j'avais plutôt l'idée d'un peu du jeu de loi.
Je joue aux petits chevaux, mais oui, c'est le jeu de loi, c'est vrai. Mais
effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a un peu une... On emploie souvent ce mot, mais c'est un peu une disruption à tous les rayons. Leur marge baisse sur leurs produits traditionnels, c'est-à-dire sur la loterie. La loterie, ils font un petit peu plus de 4% de marge. Les cigarettes, heureusement, on en vend moins et leur marge diminue. Il faut encore un peu plus de marge sur les paris sportifs, 8%. Mais donc voilà, ils se font un petit peu attaquer par le... Il y a une concurrence évidemment du digital, mais il y a une concurrence de tous ces commerces type Carrefour Market, des night shops, des stations-service qui vendent aussi un petit peu de presse, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui est là pour les sauver.
Non, et puis c'est surtout aussi, on peut rappeler quand même, Harold, que dans un magazine, dans un journal, on prend un petit peu le temps de la lecture, c'est-à-dire que c'est long, c'est pas une info d'une vidéo ou une info de 2 minutes à peine qu'on va voir sur écran.
Mais oui, bien sûr.
Même s'il y a aussi des articles longs sur écran, encore une fois.
Oui, et il y a toute une série de produits comme ça qu'on voyait disparaître, finalement, qui font de la résistance. Je pense au vinyle, je pense au livre. Le livre, notamment le manga chez les jeunes, ça marche très fort. Ouais. Donc, on a dit 10 fois que le livre allait disparaître sous sa forme papier, qu'on allait tous être sur des e-books. Mais je n'en suis pas persuadé. Donc, cette marche en avant... Elle est voulue par qui? Elle est voulue par quoi? Je ne suis pas sûr que tout le monde adhère à cette marche forcée en avant.
Voilà. Et en tout cas, pour lire, pour en savoir plus, il y a donc votre enquête Librairie Presse, La Grande Disparition. Donc, dans ce numéro 33 de Médor, toujours en kiosque. Médor, même pas mort, avec le trou au milieu. Voilà, soutenez Médor, le magazine de l'investigation indépendant. Merci beaucoup, Harold.
Merci à vous.